Nous allons prier.
Oh oui, Père, merci parce que nous allons pouvoir ouvrir ta parole encore et nous voulons pas simplement ouvrir ta parole, mais nous voulons aussi ouvrir nos cœurs. Et nous voulons entendre ta voix et aussi obéir à ta voix. Seigneur, je te prie dans ta grâce de me diriger. Tu sais combien j'ai besoin de toi. Que ce soit toi qui parle, Seigneur, parce que si c'est pas toi qui parle, tout ce que je pourrais dire ne sert à rien. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Je te prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 jours, je vous ai parlé de la flamme olympique. Hein, parce que j'ai dit, ce serait intéressant de faire un message sur la flamme olympique, surtout qu'il y avait eu des problèmes à Paris où il y avait eu opposition. Et j'ai fait un parallèle que nous aussi, nous sommes des flambeaux. J'avais pris ce passage de Philippiens 2, versets 15 et 16, « Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Et donc, j'avais fait le parallèle entre cette lumière que nous sommes, la lumière du monde, et cette opposition, hein, il y a cette opposition dans ce monde aussi, et on essaye d'éteindre cette lumière, hein. On essaye d'éteindre ce flambeau, et même j'ai dit le comble, c'est là où les personnes rouspètent, les pays qui rouspètent, c'est ici qu'ils essayent d'éteindre le plus de flambeaux possible en Chine, et c'est là où il y a de plus en plus de flambeaux qui brillent. Nous avons vu aussi ensemble combien tout le dispositif qu'ils avaient fait pour garder la flamme, hein, pour qu'elle soit protégée, même ils l'ont mis dans un fourgon et ainsi de suite. Et j'ai dit que nous aussi, nous avons à maintenir cette vie en étant remplis du Saint-Esprit, en étant animés par lui et cette flamme qui brille toujours. Et j'avais vu aussi ensemble que les hommes faisaient ça pour la gloire du sport, la gloire de l'homme. Mais nous, nous brillons pour la gloire de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je vais encore vous parler des Jeux Olympiques. Eh oui. Je vais vous en parler, et de toute façon, j'en suis pas le seul. L'apôtre Paul en a parlé aussi. Il faut se dire que l'apôtre Paul, lui-même, a été dans les endroits où il fallait, dans un sens, hein, en Grèce. Et là, nous savons qu'en Grèce, c'est là où il y avait les Jeux Olympiques à Olympie tous les 4 ans, mais aussi à Corinthe. À Corinthe, où il y avait des Jeux tous les 2 ans. Hein, ils appelaient les Jeux Isthmiques. Isthmiques, hein, c'était à l'isthme à côté de Corinthe. Et là, tous les 2 ans, il y avait le sport, il y avait la course, il y avait le combat. Et même, il y a certains commentateurs pensent que l'apôtre Paul était sans doute là en printemps 51 quand il y avait ces Jeux. Donc on sait que l'apôtre Paul a été pendant 18 mois à Corinthe et donc il a pu peut-être entendre, participer, voir en tout cas, et il va tirer des leçons. Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans les épîtres, il nous parle souvent de la course. Et c'est pour cela que je voudrais qu'ensemble nous puissions voir un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, verset 24, 1 Corinthiens 9, 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié. Pour avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres, pardon. Donc, là, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas ? C'est sûr que pour les Corinthiens, Il pouvait facilement faire le parallèle en disant, c'est vrai, il y a eu ces jeux dans notre ville, on peut comprendre facilement ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous parle de cette course, il nous parle de ce combat, il nous parle de ces jeux. Et c'est vrai que Paul reprend cette image pour l'adresser à la vie chrétienne. Alors c'est vrai que la vie chrétienne, c'est une course aussi. C'est une course, la vie chrétienne. Mais ce qui est très intéressant, avant de partir à la course, on pourrait dire, vous savez que ceux qui participaient, parce qu'il fallait, pour ceux qui participaient, il fallait simplement être citoyen grec, de parents libres. Il n'y avait qu'eux qui avaient le droit de participer à ces jeux. Aucun esclave, aucun barbare. Ou même s'il y avait un grec qui avait fait des sacrilèges, n'avait pas le droit de participer à ces jeux. Et c'est très intéressant parce que avant ces jeux, donc, il y avait tout un rite aussi de purification. Et c'est très intéressant. Pour nous, chrétiens, nous ne courons pas pour gagner le ciel. Il faut bien, nous ne courons pas dans la vie chrétienne pour gagner le ciel. Parce que le ciel ne se gagne pas. C'est Christ qui est venu. C'est lui qui est descendu du ciel pour nous sauver, pour nous racheter. C'est lui qui est venu pour nous délivrer. Parce que, d'ailleurs, on était étrangers. Comme il est dit dans Colossiens, vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Maintenant, on pourrait dire, nous sommes des citoyens des cieux. Et c'est pour cela que, en tant que citoyen, en faisant le parallèle, je peux courir. Si je dis, j'essaie de rentrer dans la course chrétienne en n'étant pas chrétien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord être chrétien. Il faut d'abord être né de nouveau. Il faut d'abord être racheté. Il faut avoir compris le message. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand nous lisons l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, il y a 6 chapitres. Les 3 premiers chapitres nous parlent de notre position en Christ, nous parlent de ce que Christ a fait, nous parlent aussi que nous sommes sauvés par grâce, nous parlent aussi que nous sommes citoyens des cieux, assis dans les lieux célestes. Et c'est à partir du chapitre 4 qu'il nous dit de marcher, pas avant. Et notre vie chrétienne, on pourrait dire, ne peut partir que si déjà je suis un citoyen des cieux, si je suis enfant de Dieu. Donc, il faut bien être clair, notre course, ce n'est pas pour gagner le ciel. D'accord ? Mais nous sommes appelés à courir. C'est très important, cela. On voit que l'apôtre Paul dit, il appelle tous les chrétiens à courir. Tous les chrétiens doivent courir. Il n'est pas spectateur. D'ailleurs, les spectateurs, c'est qui ? C'est le monde. C'est eux qui nous regardent. C'est eux qui nous voient vivre. C'est eux qui nous voient agir. Les spectateurs, ce n'est pas des chrétiens. Les spectateurs, c'est ceux qui sont là, qui regardent. Mais nous, nous sommes dans la course. D'ailleurs, c'est très intéressant. Parce que l'apôtre lui-même dit, car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle, voyez, au monde, aux anges, aux hommes. Donc, les chrétiens, on est en spectacle. Il y a des spectateurs, mais un chrétien n'est pas un spectateur. Et ça, c'est très important. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit agir, c'est quelqu'un qui court. Il est appelé à courir dans cette vocation que le Seigneur lui a donnée. Et Paul dit, courez d'une manière à remporter le prix. Alors c'est sûr que là, on peut faire une différence parce que dans les jeux, il n'y avait qu'un seul vainqueur. Il n'y avait qu'un seul vainqueur. Que pour les chrétiens, tous sont appelés à être vainqueurs. Tous. S'ils marchent, s'ils se laissent conduire par Dieu. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de compétition entre nous. Hein? Au contraire, on doit même s'encourager en disant, allez, vas-y, cours. Hein? C'est différent par rapport à la course, il n'y avait qu'un seul vainqueur. Et d'ailleurs, s'il n'y avait eu qu'un seul vainqueur dans la course chrétienne, on pourrait dire, oh, c'est pas la peine de courir, parce que déjà, l'apôtre Jean ou l'apôtre Pierre a déjà gagné. Donc, c'est pas la peine, on arrête là. Vous savez, quand quelqu'un a déjà gagné, on dit, bon, c'est pas la peine de courir. La victoire a déjà été acquise par quelqu'un. Ouf, allez, je sais pas, imaginez-vous les gens qui courent et puis ils voient, ça y est, il a déjà gagné. Bon, c'est pas la peine de forcer maintenant. Hein? Non. Nous, on est tous appelés à, il dit, courir de manière à remporter le prix. Nous avons un prix à remporter. Et nous savons que cela est possible parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et en plus, le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il nous l'a donné par sa divine puissance. Donc, nous pouvons courir. Alors, peut-être quelqu'un me dira, oh, moi, courir, oh, moi, je suis sauvé, c'est le principal, j'ai le ciel. Courir, non. Je me dis, si c'est cela, votre réflexion, si vous n'avez rien compris à l'Évangile, si vous avez compris la moitié de l'Évangile, si vous n'avez pas été saisi par Jésus-Christ, parce que quelqu'un qui est saisi par Jésus-Christ, quelqu'un qui a été transformé par Jésus-Christ, quelqu'un qui a été pardonné par Jésus-Christ, quelqu'un qui a été libéré par Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui est poussé en avant, qui veut aller et qui va aller annoncer aussi la parole. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Si vraiment j'ai compris l'Évangile, et que je suis enfant de Dieu, je ne suis pas un spectateur. Je suis quelqu'un qui court. Je suis quelqu'un qui va de l'avant. Parce que le Seigneur m'a ouvert une route, une vocation, et je vais le faire. Parce que c'est lui qui va créer en moi le vouloir et le faire. Alors c'est vrai qu'il est dit, au verset 25, je vous le lis dans Parole vivante, il dit, « Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences et disciplinent leur vie dans tous les domaines. » Et à l'époque, ceux qui participaient à ces jeux, pendant 10 mois, vous vous rendez compte, 10 mois, ils devaient pendant 10 mois s'exercer pour être le plus performant possible. C'est sûr que la course, ce n'est pas la place aux feignants. Aucun feignant va gagner la course. C'est quelqu'un qui va travailler, qui va agir. Et d'ailleurs, nous pensons que nos athlètes français qui sont partis à Pékin, ils se sont entraînés des mois et des mois et des mois, peut-être des années pour certains. Et en fin de compte, ils ont été obligés de s'imposer toutes sortes de choses, de régimes, de qualité de vie, peut-être de ne pas veiller trop tard le soir. Ils ont dû traiter durement leur corps. Quand des fois leur corps dit « reste au lit ». Non, il faut que j'y aille, il faut que je fasse de l'entraînement. Vous voyez, ils ont dû... C'était pas le corps qui décidait. Non, c'était leur détermination. Non, tu te soumets, tu vas travailler parce que moi je veux gagner. Vous voyez ? Donc les athlètes s'imposent toute une sorte de... une discipline qui est là pour vraiment faire tout dans le but de gagner. Et même l'apôtre Paul lui-même se donne en exemple. Il dit, verset 26, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié. » Donc on voit l'apôtre Paul lui-même dit, « Voilà ce que je fais, suivez mon exemple, je fais tout pour l'Évangile. Je fais tout pour l'Évangile. » Et c'est pour cela que je voudrais lire quelques passages à propos de l'apôtre Paul, de son témoignage, de sa façon de vivre. Paul ne s'est pas arrêté à la première tuile. Si Paul s'était arrêté dès que on lui a dit, dès qu'il avait vu de l'opposition, quand il avait reçu déjà des coups, il a dit, oh, c'est pas la peine, j'arrête de courir parce que j'en ai pris plein à la figure, j'arrête. Non, l'apôtre Paul, on pourrait dire, a un palmarès de tout ce qu'il a subi. Je peux lire un passage dans 2 Corinthiens, il dit, je suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril, sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, au jeûne, au multiplié, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. On voit, l'apôtre Paul ne s'est pas arrêté à la moindre première difficulté. Au contraire, il a continué. Il a été obligé de traiter durement son corps. Combien de fois il aurait pu dire, je laisse mes valises, ça suffit, j'arrête. Et combien de fois on peut être tenté par cela, en disant, oui, la vie chrétienne c'est dur, il y a des choses, je reçois des coups, et bon, j'en ai marre de recevoir des coups. Et on veut s'arrêter. Non, le Seigneur nous appelle à cette course. Et on voit que l'apôtre Paul avait cet objectif toujours de vouloir courir. Et regardez ces belles paroles dans Actes. Il dit, « Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Vous voyez, l'objectif de Paul, c'était « pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voilà l'objectif de Paul, c'est de continuer de finir la course, d'aller jusqu'au bout. Il savait, il était conscient que la ligne d'arrivée n'était que quand il allait quitter ce monde. Mais tant qu'un chrétien est vivant, il a une course à mener. Et même l'apôtre Paul aurait pu se reposer sur ses acquis en disant, mais moi, après tout, j'étais pharisien, je suis né d'Hébreu, j'ai quand même un bon bagage. Non, qu'est-ce qu'il dit dans Philippiens ? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez, encore là, il parle de la course. Je fais tout pour gagner. Il fait tout pour gagner. Et c'est formidable parce qu'à la fin de sa vie, regardez ce qu'il a dit à Timothée. Il a écrit des belles choses à Timothée. À la fin de sa vie, il dit ceci, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Voilà, j'ai achevé la course. Voilà, j'ai la couronne. Voilà, il a été jusqu'au bout. Ah, formidable. Et le Seigneur nous encourage par cet exemple. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire, « Soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. » Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, « Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Je ne veux pas tomber dans le piège. On peut, vous savez, on peut tomber dans un piège. Vous savez, il y a plein de pièges dans la vie chrétienne qui, bien souvent, au lieu d'avancer, nous fait reculer. Je pense, ce matin, si je vous dis, attendez, vous voulez vous entraîner, vous voulez courir, alors je vais vous donner plein de recettes. Là, on peut tomber dans toutes sortes de choses. On peut tomber dans le légalisme, on peut tomber dans l'ascétisme, on peut tomber dans toutes sortes de choses pour essayer de maintenir notre corps. Tout ça, comme il est dit dans Colossiens, c'est très intéressant d'ailleurs, Regardez, Colossiens chapitre 2. Je vais vous... À partir du verset 16. Colossiens 2, 16. Il dit, Colossiens 2, 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son prix, à son gré, le prix de la course, vous voyez, on parle de course encore, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire leur accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Vous voyez, on peut tomber dans ce piège. Pour ça, on ne court pas à l'aventure, on ne bat pas l'air n'importe comment, parce qu'on pourrait tomber dans tous ces pièges-là et pas prendre comme Christ, comme chef, comme celui qui me fortifie, celui qui me donne le vouloir le faire, celui qui va me conduire dans la vie chrétienne. Et on peut se mettre toutes sortes de lois, on peut se mettre toutes sortes de restrictions, mais on peut être à côté de la plaque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est pour cela que je vais simplement vous lire quelques passages maintenant. Et je crois que ce qui est important, c'est chacun de nous, devant Dieu, si j'ai le désir d'avancer, si j'ai le désir de courir, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce qui dans ma vie empêche que je cours ? Qu'est-ce qui m'empêche de courir dans ma vie ? C'est intéressant de se poser ces questions-là. Et Seigneur, dirige-moi. Parce que ce qui est important, c'est que chacun de nous, on soit conduit par l'Esprit, que ce combat-là soit conduit par le Seigneur. Et je vais vous lire quelques passages, donc maintenant, simplement pour nous exhorter, et ce que l'apôtre Paul disait, ce que la parole de Dieu nous dit, sur, on pourrait dire, notre vie chrétienne. On pourrait lire ce passage de « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Vous voyez ? Passage dans Romains 6, 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Peut-être que je suis quelqu'un qui est arrêté, peut-être que je suis quelqu'un qui dit « Oh, ça va, j'ai couru un temps, maintenant j'arrête, je me repose. » Car maintenant le salut est plus près de nous, car lorsque nous avons cru, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous de Christ. Vous voyez encore. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Ou dans Galates, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Si Galates courait bien, quand ils ont reçu Christ, ah, c'était formidable, ils témoignaient, ils étaient heureux, ils marchaient dans la fidélité. Puis à un moment donné, il y a des gens qui sont venus dire, attendez, vous êtes chrétien, mais à une condition. Hein, il faut que vous vous faire circoncire, et puis il faut vous obéissiez à la loi, et ainsi de suite. Et ça les a arrêtés dans leur course. Qu'est-ce qui m'empêche de courir ? Peut-être que vous le savez. Qu'est-ce qui vous empêche de courir ? Qu'est-ce qui vous retient ? Je vous répète le verset, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Oh, l'apôtre Paul Vous savez, il avait des disciples très proches, Timothée, qui l'exhortait comme un enfant. Il lui dit, exerce-toi la piété. Voilà, exerce-toi la piété. Vas-y, exerce-toi la piété. Combat le bon combat. Un bon combat, le combat de la foi. Parce que vous savez, des fois, on peut faire un combat qui n'est pas le bon combat. Des fois, on combat des choses qui n'ont rien à voir. Non, combat le bon combat. Il dit à Timothée aussi, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà. Voilà, il y a plein d'exhortations comme ça. C'est pour ça que je vous exhorte, passez du temps avec le Seigneur. Et dites-lui, Seigneur, moi je veux courir. Je veux faire tout pour courir dans cette carrière que tu m'as ouverte. Qu'est-ce qui empêche ma course? Qu'est-ce qui empêche que j'avance? Et il y a un autre passage dans Hébreux qui dit, nous donc, aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc c'est tout le chapitre 11 des Hébreux, des gens qui nous ont précédés, des gens qui ont déjà remporté la victoire, des gens qui ont déjà couru, qui ont été des vainqueurs. Il dit voilà, vous avez des témoins, des personnes qui sont déjà arrivées, qui ont réussi. Voilà. Alors, devant ces témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Voyez, encore une fois, il dit voilà, courez dans cette carrière qui vous est ouverte. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher de courir. C'est vrai, on verrait très mal quelqu'un faire un 100 mètres avec un sac à dos, avec 20 kilos de gravats dans le dos, avec des gros godillots ou des bottes, à courir. Hein. Bon, c'est sûr, au temps des Jeux Olympiques, les gens couraient complètement nus. Ça, c'est sûr, ils n'étaient pas gênés du tout. Mais combien c'est une image là de, bien souvent, il y a des choses qui nous retiennent, qui nous empêchent de courir. Et la parole de Dieu nous exhorte à rejeter tout fardeau, enlever tout cela. Venez au Seigneur en disant, voilà, il y a ça qui me tracasse. Il y a des fois des fardeaux, des soucis, toutes sortes de choses. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dites-le. Vous pouvez tout dire à Dieu. Vous pouvez vous décharger sur lui. Et arrêtez aussi par rapport au péché. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Voilà. Et le chef de file, celui qui est devant nous, c'est Christ. On peut y aller, on peut courir. Très intéressant aussi, c'est dans les courses, à l'époque, c'était... juste une ligne droite, 185 mètres. Il ne tournait pas en rond. Hein, c'est une bonne image, ça. Des fois, on tourne en rond dans la vie chrétienne. Non, là, il y a une seule ligne droite, tout droit. Voilà. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards. Voilà, Christ le vainqueur, celui qui a remporté le prix. Je peux y aller. Alors c'est vrai que le Seigneur nous exhorte, parce qu'en fin de compte, ceux qui sont partis aux Jeux Olympiques, ils ont fait tout pour une médaille, pour être sur le podium. Ah bon, médaille d'or, médaille d'or. Bon, à l'époque, c'était des couronnes, hein, des couronnes de pin, de laurier. Et ils font des choses, en fin de compte, qui, face à l'éternité, c'est quoi? Rien. C'est vrai, il y a l'honneur. Ah, il y a l'honneur des hommes qui sont là. Oh, c'est formidable, il est le plus fort. Vous savez, bien souvent, quand on parle de cela, très vite, peu de temps après, dans le journal de l'équipe, en disant, oh, il n'est pas si performant que ça. Oh, et puis, il y en a d'autres. Et puis, ceux qui ont été très hauts à un moment donné, très vite, ils vont être vite redescendus. Bien souvent, c'est ça. Hein. Les victoires du passé, oh oui, il était vainqueur en 2000, mais maintenant, c'est... Hein. Nous, c'est pour une couronne incorruptible. Dans la gloire. Et nous, ça ne sera pas des hommages des hommes qu'on va recevoir. C'est l'hommage de Dieu. D'entendre en disant, bon et fidèle serviteur,
t'as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. C'est beau d'entendre ça. Ou dire comme Paul, voilà, à la fin de ma vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais si j'arrive à la fin de ma vie, je dis, j'ai gâché ma vie. En fin de compte, j'ai vécu ma vie que pour moi-même. Ça serait triste. En tant que chrétien, vivre sa vie que pour soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais si je peux dire, voilà, j'ai combattu. Oh, j'aurais pu faire plus, c'est sûr. J'aurais voulu faire plus. Et c'est vrai qu'il y aura ce regret-là. Mais si je peux dire, voilà, j'ai combattu le bon combat. Je veux avancer. Je veux courir. Je ne veux pas rester assis. Je ne veux pas être à l'arrêt. Non, je veux avancer. Et vous savez que après ces jeux, après qu'on ait remis ces trophées, il y avait un banquet. Il y avait un repas où ils recevaient tous les honneurs. Et nous avons un super banquet qui nous attend. Heureux ceux qui ont part aux noces de l'agneau. Ouais. Voilà ce qui nous attend. Un super banquet, là-haut, pour les vainqueurs. Et j'aime bien, on aurait pu, vous savez, dans l'Apocalypse, à chaque fois qu'il y a une église, les sept églises, à chaque fois, il y a une promesse à celui qui vaincra ceci, à celui qui vaincra, voilà, celui qui vaincra. On pourrait les lire et nous encourager en disant, voilà. Oh, d'ailleurs, je vais le faire. On a encore 5 minutes. Alors, on va regarder Apocalypse. Apocalypse. Alors, la première église, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La deuxième église. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Troisième église. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Et ça, c'était aussi au niveau des courses. Hein. Il recevait un caillou, il y avait un nom dessus. Et là, on recevra ce caillou. Quatrième église. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Cinquième église. À celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Sixième église. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Et la septième église, une église qui fait froid dans le dos, mais il y a une promesse pour celui qui se tient devant le Seigneur. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voyez, celui qui vaincra. Et je voudrais, il y a une note aussi, je crois que c'est dans Apocalypse 21, où il est dit ceci, à celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Voyez toutes les promesses? Voilà pour le vainqueur. Et combien le Seigneur nous appelle. Et on peut y aller. Tous peuvent être vainqueurs. N'oublions pas, tous peuvent être vainqueurs ce matin. Même celui qui dit « Oh, mais moi je suis faible. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Tous, ce matin, peut remporter ce prix. Et on doit s'encourager mutuellement pour qu'on tous gagne. Parce que en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous prions. Oh oui, Père. Seigneur, merci parce que en premier, tu nous as rachetés. Merci parce que tu nous donnes d'être participants dans cette course. Parce que tu nous as rachetés, tu nous as fait des citoyens des cieux. Et Seigneur, nous voulons vraiment courir avec ta force, avec ta direction, Seigneur, en étant conduit par ton Esprit Saint. Et que ce soit toi qui sois glorifié. Parce que notre but, Seigneur, c'est que toi, tu sois glorifié. Et qu'on soit avec toi dans la gloire. Et Seigneur, merci parce que nous savons qu'un jour, nous serons avec toi dans la gloire. Et tu dis aussi que nous serons même invités au repas des noces. Oh, combien c'est formidable, Seigneur. Seigneur, que vraiment ton amour nous presse à aller de l'avant. Que personne reste en arrière, que personne soit spectateur, mais que chacun puisse courir dans la carrière qui lui est ouverte. Je te prie, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.